Chers auditeurs, la nomination du successeur de Mgr Geoffrey va se ressentir de l'atmosphère de grande tension dans laquelle se trouvait le gouvernement français et le Saint-Siège. Le nouveau pape, Pie X, est peu enclin à la conciliation. Et à Paris, M. Combes, qui prend bientôt la tête du gouvernement et qui a voué une haine implacable à l'Église, peut s'appuyer pour sa politique anticléricale sur une chambre de députés qui ne cherche qu'à combattre par tous les moyens l'influence de la hiérarchie. En janvier 1904, le gouvernement procède à la nomination de trois évêques, celui de Saint-Jean de Maurienne, de Bayonne et de Constantine. L'évêque choisi pour Bayonne était Mgr Grazianol, l'évêque de Constantine, pour lequel, disait-on, le Saint-Siège avait une estime très limitée. M. Loubet, président de la République, refusera de signer ces trois nominations épiscopales non agréées par le pape et Bayonne restera encore sans évêque. Après des discussions longues et passionnées, le gouvernement fera adopter la loi publiée le 9 décembre 1905, qui dénonçait unilatéralement le concordat de 1801 et établissait la séparation des Églises et de l'État. L'article 2 de cette loi établit que désormais la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Tous les budgets publics relatifs à l'exercice d'un culte était donc supprimé en France. L'article 3 stipulait que les agents de l'administration des domaines procéderaient à l'inventaire descriptif et nominatif des biens immobiliers des paroisses et de ceux dont elles avaient la jouissance. L'application de cet article, qui n'aurait dû être qu'un épisode technique de la loi de séparation, fut l'occasion de conflits parfois violents. L'article 4 prévoyait que ces biens seraient dévolus à des associations cultuelles constituées selon la loi du 1er juillet 1901. Ces associations soulevèrent beaucoup de discussions et un certain nombre de difficultés parmi les évêques français jusqu'à ce que le pape les condamne définitivement. Mgr François-Marie Gieure, évêque de Bayonne. Mgr Gieure était né en 1851 à Castet-des-Landes. Il avait fait ses études ecclésiastiques au séminaire de Saint-Sulpice à Paris et avait été ordonné prêtre en 1874, vicaire de la paroisse de la Madeleine à Mont-de-Marsan, puis directeur spirituel au petit séminaire d'Aire et aumônier des Ursulines de Saint-Sauvé. Il entrait en 1891 au grand séminaire d'Aire en qualité de professeur d'histoire ecclésiastique et d'éloquence pour en devenir 8 ans après le supérieur. À la mort de Mgr Delannoy en août 1905, le chanoine Gieure fut désigné comme vicaire capitulaire par le chapitre. Nommé évêque de Bayonne au consistoire du 21 février 1906, il reçut la consécration épiscopale 4 jours plus tard, le 25 février, à Saint-Pierre de Rome, avec les 13 autres évêques que le pape venait de nommer sans l'aval du gouvernement français. Mgr Gieure fit son entrée à Bayonne le 20 mars 1906, par un temps magnifique et au milieu d'une foule énorme qui accompagna le pontife depuis la gare jusqu'à la cathédrale. Le premier discours qu'il tint en chaire donnait le ton et l'orientation qu'il avait choisi pour son ministère à Bayonne. « Je serai le chef représentant le Christ et marchant à la tête de mon peuple. Le chef doit régler la marche et l'ordre des mouvements. Les armées disciplinées seules remportent des victoires. » On était certes loin de l'attitude de prudence et de modération adoptée par les vicaires capitulaires de Bayonne. Les prêtres et les fidèles qui avait regretté le silence des évêques jusque-là, ne pouvait qu'admirer les accents guerriers du nouveau pasteur et s'en féliciter. Dans la lettre pastorale qu'il adressait à ses diocésains le 4 mars 1906, à l'occasion de son entrée dans le diocèse, après avoir rappelé que son programme était celui de notre chef Pidis, instaurare omnia in Christo, il ajoutait « Quand il s'agira de la défense de la religion, on nous trouvera debout. Quand ses intérêts sacrés seront menacés, nous saurons comprendre et mettre en pratique la parole de notre divin Sauveur. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix à la terre, mais le glaive, car nous sommes des soldats, les bons soldats du Christ. » Quand la loi de séparation fut votée, c'est au vicaire capitulaire que revenait le soin d'éclairer les prêtres et les fidèles sur la conduite à tenir. Il voyait dans cette loi une œuvre de haine, d'hypocrisie, de discorde et de tyrannie. Pidis allait la condamner dans l'encyclique Vehementer du 11 février 1906. Sitôt la loi promulguée, le gouvernement se mit en mesure d'organiser les inventaires qu'elle avait prévus. S'inspirant des directives données par certains évêques pour leur diocèse, les vicaires capitulaires adressèrent leurs instructions aux prêtres. Ils prescrivaient le refus de toute coopération à un inventaire qu'ils considéraient comme une usurpation du pouvoir séculier sur les droits de l'Église. Le curé devait simplement assister comme témoin pour sauvegarder le bon ordre et la décence dans l'Église. Il devait également protester contre cet inventaire, déclarer qu'il était là uniquement comme témoin et n'entendait nullement coopérer à un acte qu'il estimait contraire à sa conscience. Il devait enfin réclamer que sa protestation fut inscrite au procès-verbal. Il s'agissait, comme on le voit, d'une résistance purement passive. Les curés et les desservants du diocèse, dans leur très grande majorité, respectèrent la ligne de conduite tracée par l'autorité diocésaine. Mais ils furent souvent, surtout au Pays Basque, débordés par leurs troupes qui ne comprenaient pas toujours l'apparente passivité de leur pasteur. De plus, une note interne de la Direction générale de l'enregistrement, datée du 2 janvier 1906, avait été publiée dans la Croix du 11 janvier. Les agents des domaines devraient demander aux prêtres présents l'ouverture des tabernacles. Cette nouvelle ayant mis le feu aux poudres, la mesure fut abandonnée. Et les annales catholiques firent savoir que les agents se contenteraient, au sujet des tabernacles, de la déclaration du prêtre et n'exigeraient pas qu'ils fussent ouverts. Mais le mal était fait et les inventaires seront considérés comme autant de profanations de lieux et de choses sacrées. Dans de nombreuses paroisses, ces inventaires se déroulèrent sans incident majeur, en application des consignes des vicaires capitulaires. Le curé ou le desservant déclarait y assister de façon passive et comme simple témoin. Mais le fonctionnaire qui avait besoin de 2 témoins officiels pour la légalité de son acte, ne les trouvant pas sur place, était obligé de se faire accompagner de 2 personnes qui lui serviraient de témoins. L'instituteur et le cantonnier. Et le curé réclamait que la protestation qu'il élevait contre cet inventaire fût inscrite au procès verbal. Nous verrons la prochaine fois la suite sur ce même thème des inventaires.